Parlons design.
Parlons design.
Design. Parlons.
Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler d'une méthode de conception de design d'expérience utilisateur. On va parler des personas. On va voir qu'est-ce que c'est, comment on peut les définir, comment on peut choisir des bons personas, quelles informations sont importantes à enregistrer, à noter lorsqu'on crée un persona, et enfin quelques critères qui vont nous permettre de vérifier la qualité des personas qu'on vient de créer. Pour faire ce podcast, je m'appuie sur le livre Méthode de Design UX, dont je vous ai déjà parlé précédemment et dont je vous reparlerai un peu en fin de ce podcast. Un très bon livre, donc sur les méthodes de design UX, comme son nom l'exprime vachement bien. Donc déjà, un persona, c'est quoi? Ça va être l'image d'un utilisateur fictif précis qui aidera l'équipe de conception, qui aidera les designers à se mettre dans la peau de cet utilisateur potentiel. Ça permettra plus facilement de s'immerger en se disant « si j'étais ce persona-ci, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je ferais, comment je réagirais à telle interface ?» Donc c'est un outil qui facilite la conception d'une interface centrée sur l'utilisateur et ça simplifie, ça facilite également la communication au sein d'une équipe. Si on sait que tel persona ressemble à ça, vit de cette manière, a ses habitudes, a ses problèmes-ci, quand on va dire « cette interface, je pense qu'il y a un problème pour tel persona », tout le monde va comprendre car cette personne fictive, tout le monde la connaît, tout le monde sait quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins. Et donc ça va être aussi, en plus d'un outil de conception, un outil de communication au sein de l'équipe de design. Avant de commencer, deux petites remarques auxquelles il faut faire attention. Un persona, ce n'est jamais une personne réelle connue. Vous pouvez pas dire « Ah, j'ai tel ami qui est utilisateur de l'application, c'est lui notre persona ». Non, faites vraiment attention. Un persona doit rester un archétype fictif. Pourquoi ? Ça permet déjà de se décrocher d'une image d'une personne précise qui peut avoir des penchants ou une personnalité très spécifique qui va du coup un peu biaiser vos résultats. Donc voilà, faut vraiment rester sur un archétype fictif et pas un personnage réel connu. Et enfin le deuxième point, le deuxième warning que j'aimerais faire avant de rentrer plus en détail dans la mise en pratique, c'est qu'un persona design est généralement différentes des personas marketing. Pour un même produit, les personas design et les personas marketing peuvent être plus ou moins différents, mais en tout cas, ils sont rarement exactement les mêmes, donc faut faire très attention. Donc on va passer à la mise en pratique. Déjà, pour un projet de design, combien de personas il faut créer ? Alors, bien sûr, ça va dépendre du produit, mais en général, c'est recommandé de 3 à 7 personas. Ça va varier selon la largeur des cibles du produit. C'est-à-dire un produit très grand public va avoir plus de personas, car voilà, faut se rendre compte de plus de personnes, alors qu'un produit sur un public plus fermé va avoir moins de personas. Pour un projet de petite taille, enfin de moyenne taille, 3 à 5 personas en général, c'est largement suffisant. Donc dans le livre Méthode de Design UX, on propose 6 catégories de personas qu'on peut reconnaître. Donc la première, c'est le persona primaire, ça va être le personnage le plus important, la cible la plus importante de votre application. Le persona secondaire, la deuxième cible finalement de votre dispositif. Il y a également l'idée de la cible négative. En fait, ça va être un persona qui représente quelqu'un qui n'est pas la cible de votre produit. Le but de ça, ça va être de se dire, ça je le ferai peut-être pour ce type de personne, mais ce type de personne, ce n'est pas ma cible, et donc je ne vais pas le faire comme ça. C'est un concept un petit peu original, un petit peu dérangeant, mais qui peut être intéressant à exploiter. Il y a également le persona acheteur, donc ça va être celui qui ne va pas utiliser directement le produit, mais qui peut l'acheter pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être à prendre en compte, notamment si vous faites une page de vente ou des choses comme cela. On peut également créer des patients de type concerné, des personas de type concerné, c'est-à-dire si on crée une interface pour les médecins, le patient peut faire partie des personas en tant que persona concerné. Et on a également ce qu'on appelle le persona supplémentaire, ça va être des personas en plus qui sont assez généraux, qui n'ont pas de statut particulier, mais qui viennent s'ajouter aux autres personas. Donc, maintenant qu'on a un peu les différents types de personas qu'on peut utiliser, comment on crée nos personas de manière pertinente avec les bonnes données sans être à côté de la plaque? La première étape, ça va être de récupérer des données réelles. C'est-à-dire aller au contact de vos utilisateurs et de savoir comment ils sont eux. Ça peut passer par plusieurs méthodes de recherche, la recherche secondaire, des entretiens avec vos utilisateurs, des observations faites avec vos utilisateurs. Voilà, tout ce qui va vous permettre de recueillir des données précises sur des personnes précises pour dégoter tout simplement toutes leurs caractéristiques, tout ce qui fait que ces utilisateurs que vous souhaitez toucher sont eux finalement. Ensuite, une fois que vous aurez fait récupérer toutes ces données, il va falloir identifier des variables, des informations à grouper qui peuvent se noter sous forme de variables. Dans quel but ? Dans le but de créer des axes pour chaque variable. Donc vous allez par exemple faire une variable aisance technique, une variable créativité, et vous pourrez placer tous les utilisateurs que vous avez interviewés sur ces différents axes, sur ces différentes variables. Ensuite, ça va vous permettre de définir des profils types selon ces variables. Vous allez voir que plusieurs profils vont se retrouver à un même endroit sur une même variable, et vous allez, à partir de tous ces points, toutes ces petites caractéristiques que vous aurez notées, que vous aurez regroupées, définir des profils types selon ces variables. Et ensuite, ça va vous mener à la création de fiches persona, qui sont donc un petit peu le résumé, la moyenne de plusieurs personnes et qui créent un profil pour un certain type, puis d'autres personnes qui se ressemblent plus ont créé leur propre profil type. Et donc finalement, vous allez pouvoir avoir un persona pour chacune des cibles plus globales que vous avez. Ensuite, pour le contenu de la fiche persona, bien sûr, il va falloir l'adapter à chaque projet. Cependant, il y a des informations un petit peu basiques qui vont se retrouver sur toutes les fiches persona qu'on peut découper en trois catégories. La première, la base, l'identité de la personne. Donc ça va être une photographie, son nom, son âge, son métier, un court descriptif de sa vie qui nous permet de nous immerger dans qu'est-ce que fait cette personne au quotidien ? Comment elle en est arrivée à là où elle est aujourd'hui ? Et vraiment pouvoir comprendre en quelques phrases quelle est un peu la façon de vivre de cette personne. Et ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est de mettre une devise, une citation, donc juste une phrase qui va décrire un petit peu l'utilisateur. Quelqu'un qui va découvrir vos personas, un autre designer, il va lire ça et il doit comprendre un petit peu quel est l'état d'esprit de ce persona. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est à propos des comportements. Donc là, on peut parler des besoins de cet utilisateur, de ses attentes, de ses craintes, de ses peurs. Et donc, choisir les points importants et les mettre pour votre fiche persona. Ensuite, il y a la partie contexte. Donc on peut parler de l'environnement de ce persona, du contexte d'usage de votre produit de ce persona, de la fréquence d'usage de votre produit ou même de nouvelles technologies. Mettre toutes ces variables de contexte par rapport à votre persona. Et donc pour chaque persona, vous allez mettre toutes ces informations, les condenser en une petite fiche qui va vous permettre déjà de communiquer avec le reste de votre équipe et vous d'avoir cette fiche qui caractérise votre persona. Quand vous devez vous le remettre en tête pour penser comme lui, vous pouvez relire cette fiche pour vous mettre complètement dans son personnage, enfin au mieux au moins dans ce personnage. Mais bien sûr, ces informations sont à adapter à chaque projet en fonction des besoins. Mais la fiche persona doit être quand même centrée un peu sur votre produit. On va pas parler de ses besoins et attentes générales dans la vie, mais de ses besoins et attentes par rapport à votre produit, par exemple. Donc enfin, je vous l'avais promis, on va parler de quelques critères de qualité, les critères de qualité de Travis qui vont permettre de déterminer, une fois que vous avez créé vos fiches persona, si elles sont bien pertinentes, si vous n'avez pas fait d'erreur. Le premier critère, ça va être de vérifier qu'elles ont bien été créées basées sur des données réelles, que ce n'est pas juste des personas complètement imaginaires, mais que c'est tiré d'informations réelles que vous avez recueillies auprès de vos utilisateurs. Le deuxième point, c'est de vérifier que votre fiche persona crée bien de l'empathie. Si vous, en regardant, en lisant votre fiche persona, vous arrivez à vous mettre à la place de votre utilisateur cible. Ensuite, le persona doit être réaliste. On doit croire que ça peut être une vraie personne dans la vraie vie. Le quatrième critère de Travis, c'est que chaque persona doit être unique. Quand vous avez un set de donc 3 à 7 personas, il n'y en a pas qui doivent faire doublon, qui doivent se ressembler, qui doivent reprendre les mêmes caractéristiques. Chacun doit vraiment être unique. Sinon, ça veut dire qu'il y en a un de trop et que certainement vous pouvez simplifier votre groupe de personas. Enfin, les infos doivent être pertinentes et en lien avec le produit, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est vraiment important que les infos marquées sur la fiche persona soient en lien avec le produit et soient pas complètement vagues et qui donc n'apportent rien à votre étude. Le sixième point, ça doit être de vérifier que le nombre de personas est adapté au projet et à l'équipe. Si vous avez trop de personas, l'équipe va se perdre tout simplement dans les personas et du coup, ils risquent de ne pas être utilisés du tout. Et donc, ça n'a plus aucun intérêt, bien évidemment. Et le dernier point de critère de qualité de Travis, c'est le persona peut-il être vraiment utilisé dans votre processus de conception ? Bien évidemment, c'est super important. Sinon, cet exercice de créer des personas n'a plus aucun intérêt pour le processus de design UX. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné une bonne base pour créer vos prochaines fiches persona. Ensuite, bien sûr, la prochaine étape, c'est de les exploiter durant la phase d'idéation, durant la phase d'évaluation du produit, etc. Mais bon, on va pas aborder ça dans ce podcast. Vous pourrez trouver plein d'autres sources d'informations, notamment le livre Méthode de design UX de Karine Lallemand, donc sur lequel je me suis basé pour ce podcast. Un livre en français qui résume 30 méthodes de design UX avec des variantes guérilla, donc super intéressant. Ça fait partie quand même des bibles du design UX, d'autant plus que c'est un livre en français. Donc il y a un lien dans la description du podcast si tu veux l'acheter pour le lire, pour en savoir plus, pour en apprendre plus. Je te le recommande vivement. C'est un livre qui m'a beaucoup plu avec beaucoup de contenu de qualité. Donc voilà. Enfin, si t'as aimé ce podcast, tu peux bien sûr le partager sur les réseaux sociaux, ça aide à faire grandir la communauté, c'est super sympa, c'est super cool. Donc voilà, n'hésite pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut!